Pourquoi on assiste à un procès comme ça, en fait? Pourquoi on prend 3 semaines de nos vies pour assister à ça?
Pourquoi on assiste à un procès comme ça? Pourquoi on prend 3 semaines de nos vies pour assister à ça? Jeudi 22 mars, 8e journée d'audience dans le procès de l'affaire dite de Tarnac. Et après la journée, alors qu'une partie des soutiens aux inculpés se retrouvent, comme chaque soir pour manger ensemble, on tente de répondre à cette question.
Je ne connaissais pas le dossier que très très vaguement avant mon premier jour du procès. Tu vois. Si je viens au départ, c'est vraiment par soutien, quoi. C'est pour être là pour les copains. Pour les copains qui passent en procès. Il y a ce moment de notre vie commune qui est tellement fort, qui est tellement énorme et qui est dur aussi, bien sûr. Il faut qu'on le vive ensemble, quoi. Il y a vraiment la nécessité d'être ensemble maintenant et en fait de se soutenir les uns les autres. Parce qu'en vrai, tout ça nous arrive à nous aussi et on a tous besoin de se tenir ensemble à ce moment-là. Et puis de vivre ces choses-là ensemble. Moi, si j'étais pas venue à cette semaine, en fait, à l'origine, je devais pas venir à Paris et je devais même pas être à la Tarnac. Mais si j'avais passé cette semaine comme ça, loin, dans un tout autre contexte, j'aurais l'impression de tellement rater quelque chose, un élément, un moment essentiel de notre vie collective, quoi, que je me suis sentie vraiment en décalage, même par après, quoi. Voilà, faut qu'on soit ensemble maintenant. Et y compris, en plus c'est un truc qui ne concerne pas que Tarnac, et c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'il n'y a pas que des gens de Tarnac ici parmi nous, on est ensemble bien plus largement. Il y a des gens particuliers qui ont participé à la préparation du procès, tout ça, dont la présence individuelle est importante. Et puis après, il y a d'autres gens, dont je fais partie par exemple, dont en vrai, que moi personnellement je sois dans la salle ou je ne sois pas dans la salle, ça ne change pas grand chose pour Manon, pour Binge, pour personne. Quoi. Mais par contre, si la salle était vide ou pleine de flics, ou pleine de badauds, je pense que ça ferait une différence. Et là, d'avoir la salle pleine de camarades, en vrai, je pense que pour eux, ça fait une différence. Il y a dans la salle que ou une grande majorité de visages amis, et ça c'est important, quoi. Et d'énergie amie aussi, en fait. Je pense que c'est pas que les visages, c'est aussi l'intensité qu'on met juste au fait d'être là, quoi. Parce qu'on saisit réellement l'enjeu. On a envie d'être là à toutes les audiences et de ne pas rater une heure d'audience, quoi, pour savoir à tout moment comment ça évolue. Il y a un truc quasiment feuilletonesque, en fait. On n'était pas forcément venu là pour ça, en tout cas pas moi. Mais ça fait qu'on apprend un tas de trucs sur le fonctionnement de la police, de la justice, de garde à vue, de tout ça. Et que ça, c'est pas inutile, peut-être.
Alors, quant à nous, qu'est-ce qu'on aura appris ou retenu cette semaine? Un PV de filature au cœur de l'accusation, dans lequel on ne cesse de se perdre. Des policiers de la SDAT enfin confrontés à la défense, par un de leurs chefs de l'époque d'abord, qui vient spontanément, dit-il, défendre l'honneur de son ancien service, avec une certaine force de conviction, certes, mais qui montrera aussi son vrai visage de flic quant aux méthodes pratiquées en garde à vue, ou dans la capacité à instrumentaliser un témoignage anonyme, par exemple. Ces subordonnés appelés à témoigner de manière anonyme, eux aussi. Une situation assez surréaliste où plus de 150 spectateurs, présents dans la salle d'audience, sont pendus aux lèvres du nombre fixe derrière un store, sur un écran, et dont la voix ne peut être que celle d'un Dark Vador fatigué. Le dernier d'entre eux, du côté de la force obscure, se fera finalement rappeler à l'ordre par la présidente. Je vous rappelle que vous témoignez sous la loi du serment. Une présidente qui fait tout ce qui est en sa mesure pour faire preuve d'impartialité, quitte à renvoyer les dénonciations par les prévenus de la machine politico-judiciaire quand elles deviennent trop véhémentes, trop régulières, ou encore trop confuses, à une position complotiste. Mais pas sûr que cela tienne jusqu'au bout, à force de démontrer le double fond du renseignement judiciarisé dans cette affaire. Des démonstrations faites par les prévenus avec un certain brio. Vous allez pouvoir accrocher la robe, s'amuse la présidente en s'adressant à leur avocat. Ça joue des coudes entre les mâles dominants de la défense pour tenir la dragée haute à l'accusation ou la justice, c'est selon. Et pourtant, quelle force et quelle fraîcheur quand c'est toute la colère de Manon, mardi soir, qui s'exprime à la barre, les yeux dans les yeux de la présidente, quant aux conditions de garde à vue, dont les PV sont utilisés par l'accusation. On a beau connaître les conditions déplorables des prisons françaises, eh ben je peux vous dire qu'après 5 jours de garde à vue, j'étais soulagé d'arriver à Fleury-Mérogis. Même force et même fraîcheur de l'avocat d'Ildune pour dénoncer encore les conditions de garde à vue, les insultes sexistes et raciales les plus dégueulasses le lendemain, face à l'ancien chef des policiers de la SDAT qui se présentait, selon les mots de son autre avocat, comme le gendre idéal de la justice. C'est trop court, trop frustrant de ne pas pouvoir en raconter encore davantage pour essayer de comprendre ce qui se joue dans et en dehors de ce tribunal. Car hier, alors qu'on se rendait au tribunal, c'était des quarts et des quarts de CRS qu'on voyait se mettre en place dans les rues de Paris en vue de la mobilisation sociale qui se préparait. Allez, tant pis, c'est comme ça. Rendez-vous demain au magasin général à Tarnac à 18h pour s'en dire beaucoup plus.
11 novembre 2008. Une dizaine de personnes est arrêtée ce matin-là au village de Tarnac en Corrèze et ailleurs.